Bonsoir Guillaume Pitron.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous avez écrit La guerre des métaux rares aux éditions Les Liens qui libèrent. Et si on a eu envie de vous inviter, c'est que vous venez de gagner le trophée du livre de l'économie. Alors j'ai la chance d'être parmi les jurés de ce trophée, donc c'est pour ça qu'on a envie de vous recevoir ce soir. Et au-delà de ça, on aurait dû vous recevoir parce que vous avez écrit le livre de demain. Là, beaucoup de gens vont s'offrir des téléphones portables à Noël. Et quand on lit votre livre, on se dit que peut-être qu'on devrait revenir au téléphone fixe. C'est quand même ça l'idée.
Le téléphone fixe, il y avait environ une douzaine de métaux dedans, dans les années 50. Et puis après, on est passé au téléphone, les gros GSM dans les années 90 qui faisaient la taille d'une brique. Et dedans, on a mis 29 métaux. Mmh. Et les téléphones portables d'aujourd'hui, les petits smartphones, il y a 55 métaux dedans. Donc plus on devient moderne, plus les technologies deviennent complexes, efficiente, et simplement cette complexité, eh bien, c'est toujours plus de matières premières à aller chercher quelque part.
Parce que c'est ça vraiment l'idée de votre livre, c'est de dire que parce que ce sont des métaux rares, ce sont des métaux qui sont à l'origine quasiment de guerres géopolitiques du quotidien. C'est ça l'idée de votre livre.
Nous utilisons de plus en plus de ces métaux, nous utilisons aujourd'hui la quasi-totalité de la table de Mendeleïev, près plus de 80 métaux, et aujourd'hui nous allons devoir, et pour demain, aller extraire ces métaux dans des quantités absolument colossal. Notre siècle qui arrive, qui débute, le 21e, sera un siècle de métal. Compte tenu des gigantesques besoins pour les technologies vertes et les technologies numériques, ça va être le pendant du pétrole au 20e. Et oui, il faut bien aller chercher ces ressources quelque part. Et qui dit qu'il faut aller chercher, dit qu'il y a des enjeux géopolitiques, économiques et écologiques colossaux qui sont en train de se cristalliser. Donc l'âge de métal n'est pas forcément un âge extrêmement empreint de sobriété, ça va être un âge passionnant mais très compliqué aussi.
Par exemple, tout le monde nous parle aujourd'hui de la voiture électrique, mais on ne sait pas demain comment on va récupérer le lithium, comment on va l'extraire, et puis comment on va le recycler. C'est vraiment ce qui ressort de votre livre.
La voiture diesel, on nous a longtemps dit que c'était génial. Après, on nous dit un jour, bah finalement, c'est pas si génial, faut en changer. Et puis, pourquoi ne pas acheter la voiture d'après, la voiture électrique, qui est géniale, bien évidemment. C'est toujours présenté comme une technologie miracle. Moi, je peux vous dire, quand on rentre un peu dans le détail, la voiture électrique, elle est bourrée de toutes ces matières premières. C'est d'immenses enjeux d'extraction, de raffinage, de recyclage.
Quand on referme votre livre, on n'a pas envie de s'acheter une voiture électrique, ça c'est sûr.
La voiture électrique n'est pas propre du tout. C'est une voiture qui également est sale, génère son lot de pollution. Simplement, cette pollution, comme ce sont d'autres pays qui l'assument à notre place, là où on extrait ces matières rares, eh bien, c'est une pollution qui est finalement délocalisée, déportée, invisible. Et puis nous roulons dans nos villes et nous disons, regardez comme nous sommes propres. Et on peut parier, on peut penser, comme le dit Carlos Tavares, le PDG de PSA Peugeot, que dans quelques années, on va découvrir que tout ça n'est pas si propre que ça n'en a l'air. Et puis alors, ce jour-là, on fera quoi? On dira, non, mais finalement, les voitures électriques, c'est pas la bonne solution. Mais nous avons une solution miracle, allez acheter la voiture à hydrogène. Et là, vous allez revoir des gilets de toutes les couleurs descendre dans la rue en disant, non, mais ça va se répéter longtemps, cette histoire. Donc, ce que l'on voit, c'est que on va pas sauver la planète en changeant juste de technologie, quoi. Si on croit qu'en changeant de technologie, on va sauver les libellules et les orang-outans, non, ça va être beaucoup plus compliqué.
Oui, parce qu'on
ne
sauve pas la planète parce qu'on détruit des territoires qui sont loin de chez nous, par exemple en Bolivie pour le lithium ou ce genre de choses. Ouais. Mais ce qui est aussi passionnant dans ce que vous racontez et qu'on ne mesure pas quand on achète un téléphone portable ou quand on achète une voiture électrique, c'est notre dépendance à ces pays. Alors, on a un petit peu l'idée sur les panneaux solaires ou ce genre de choses, mais pour pouvoir produire tout ce genre de produits, il faut être totalement dépendant de pays qui sont, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ce que vous dites dans votre livre, pas tout à fait propre.
Non, vous savez, l'OPEP, c'est 40% de la production de pétrole. Les terres rares, qui est une classe de métaux rares et d'autres métaux, c'est jusqu'à 95% de la production qui est entre les mains d'un seul pays, c'est la Chine. Et nous avons laissé à la Chine le soin d'extraire tous ces matériaux très salissants pour nous, parce que nous ne voulions pas supporter le fardeau de ces terres rares et de ces métaux rares et donc des technologies vertes. Et à l'arrivée, nous avons confié le monopole de ces métaux à des pays qui tiennent des ressources stratégiques. Et là, vous voyez toutes les cartes géopolitiques qui sont en train de s'abattre. La Chine dit stop, je ne vous vends plus mes métaux à un prix coûtant, je vais essayer de les valoriser pour mon propre développement économique, je ne vais pas vous vendre mes matières rares, mais je vais vous vendre ma voiture électrique avec la matière rare à l'intérieur, mais vous achèterez le produit fini et non pas le composant, et puis c'est les emplois verts de demain, mais c'est moi la Chine qui vais les développer sur mon territoire. Est-ce que cette transition énergétique, ça va pas être d'abord une transition chinoise? C'est ce que je crois, la Chine a les ressources, et donc elle a le leadership des
technologies
vertes.
Mais vous dites dans votre livre que peut-être que la France est un géant des minières rares qui ne le sait pas.
Elle l'a été, on l'a un peu oublié parce qu'il y a 30 ans, il y avait encore des mines, mais aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus. Mais on pourrait tout à fait ouvrir des mines de métaux rares en France. On pourrait ouvrir, par exemple, des mines de tungstène. Et puis, peut-être que ce serait bien d'avoir cette souveraineté minérale, parce qu'on dit que c'est bien d'être souverain sur le plan alimentaire ou énergétique, mais à un moment, avoir ces ressources pour ne pas dépendre de la Chine, c'est peut-être une bonne idée. Donc, la question va devoir se poser d'être cohérent entre nos modes de consommation qui sont fortement consommateurs de ces ressources et les impacts écologiques et la sécurité stratégique qu'il faut bien assumer à un moment ou à un autre.
Mais pour autant, on voit à quel point ça peut être compliqué d'imaginer d'ouvrir des mines ou ce genre de choses en France.
Ça génère déjà un débat fou et le simple fait d'aller éventuellement explorer un gisement, en soi, c'est déjà excessivement compliqué. Il y a des tensions avec les communautés riveraines en France. Donc, c'est pas demain qu'on ouvrira des mines. Mais il faut bien comprendre que nous sommes pris à nos contradictions. Nous voulons tout le meilleur de ce monde technologique merveilleux qui nous est vendu à coup de publicité pour Noël, mais nous ne voulons pas assumer tous les transferts de pollution et puis de tensions sociales dans les mines de cobalt. C'est des enfants qui travaillent aussi dans les mines de cobalt au RD Congo. Et nous ne voulons pas assumer tous ces enjeux qui sont intrinsèquement liés à ces matières premières. Et il va falloir que nous sortions de ces contradictions.
Mais quand vous dites nous ne voulons pas assumer, est-ce que vous pensez qu'il faut mieux nous éduquer pour qu'on sache finalement, un peu comme sur la viande, la transparence, ce genre de choses, est-ce que vous pensez qu'il faut en arriver là pour ce genre de produits technologiques ?
Nous avons perdu la culture des matières premières.
C'est totalement ce qui ressort de votre livre, ça.
Vous savez à peu près à quoi ressemble du pétrole, encore que le pétrole à la pompe, vous n'avez aucune idée, moi non plus d'ailleurs, d'où il vient. Et personne n'a démonté, ou peu de personnes ont démonté un téléphone portable pour regarder quels sont les composants et qui plus est les métaux à l'intérieur. Et donc cette absence de culture des ressources fait que nous n'avons pas la moindre idée de tout ce qui se trame à l'intérieur de nos téléphones et sous le capot de nos voitures électriques et autres. À un moment, je pense qu'il faut que nous réapprenons cette culture et ça passe pour le consommateur par exemple des labels ou des indicateurs qui permettraient de comprendre qu'est-ce que l'empreinte matière de nos technologies, c'est quoi la vérité écologique de nos technologies. Vous parlez du téléphone, vous saviez combien il faut de kilos de matière pour un téléphone de 120 grammes à l'arrivée. Pour 120 grammes à l'arrivée,
je sais parce que j'ai lu votre livre, c'est écrit dedans.
Il faut 70 kilos de matière en amont. Donc il y a 600 fois plus quasiment de matière mobilisée en amont pour arriver à ce petit produit de 120 grammes. Comment est-ce que nous éduquons nous-mêmes à la réalité de cette empreinte matérielle et technologique ? Est-ce qu'il ne faut pas qu'au dos de nos téléphones, il y ait marqué « Vous voulez un nouveau téléphone ? Eh bien, on va faire un trou là, d'équivalent de 70 kilos de terre, pour que vous puissiez avoir ce téléphone-là. » Et donc, je pense que les indicateurs, pour le consommateur, sont absolument indispensables pour que nous retrouvions cette culture des ressources sans laquelle nous ne comprenons pas les enjeux du monde dans lequel nous sommes en train de nous lancer avec ces technologies.
Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Guillaume Pitron qui a donc écrit La guerre des métaux rares aux éditions des Liens qui libèrent. Merci.